Il est 20h et je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de radio de l'Union communiste libertaire. A tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de radio, donc je vous le disais tout à l'heure, de l'Union communiste libertaire de Lyon. Et on est là avec vous pendant une heure d'information anarchiste, selon enfin, nos principes, évidemment, anarchistes. On va commenter cette actualité. Déjà, dans un premier temps, on va faire une petite annonce qui nous concerne, puisque c'est le pot de rentrée, en fait, annuel. Enfin, de rentrée, toujours après les vacances, évidemment, que nous organisons à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Donc, ce pot de rentrée sera le vendredi 24 septembre, à partir de 18h. Donc, on vous y invite et on espère quand même qu'on y sera nombreuses et nombreuses. Donc, voilà, on rappellera donc cette annonce mercredi prochain, bien entendu. Et. Donc là-dessus, je vais laisser le micro à mon camarade qui va commencer donc cette émission.
Bonsoir à toutes et à tous. Librairie La Plume Noire, on peut le rappeler, la librairie libertaire animée par les militantes et les militants de l'Union communiste libertaire de Lyon. Rappelez quand même que c'est situé au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, à côté de la place Colbert. Voilà, avec le traditionnel pot de rentrée, c'est toujours un moment convivial qui permet de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger sur l'actualité sociale et politique, et puis de préparer les luttes à venir pour l'année et les luttes en cours, tout en partageant un moment de solidarité, un moment de convivialité. Donc on vous incite à venir, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue à ce pot de rentrée. Donc il y aura lieu, comme tu l'as dit Daniel, ce vendredi 24 septembre à partir de 18h, et puis ça se poursuivra certainement en soirée. Il y aura quelques libations et quelque chose à grignoter certainement pour rendre tout ça convivial. Et puis on rappelle aussi que la librairie La Plume Noire, elle est ouverte le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 15 à 19h, et que si vous n'avez pas l'occasion de passer pour le pot de rentrée, il ne faut pas vous priver de passer pendant ces heures d'ouverture pour rencontrer les militantes et militants de l'UCL, pour récupérer tracts, brochures, autocollants, et puis pour venir dénicher les livres qui vous intéressent sur des rayons qui sont bien achalandés en cette rentrée. Voilà, donc ça c'est rendez-vous est pris pour ce pot de rentrée, comme tu dis, on vous le rappellera. Pour commencer cette émission Idées Noires, on voudrait revenir sur le rassemblement qui a eu lieu samedi dernier à Lyon, place de la Comédie, en partie à l'initiative de l'UCL et de nombreuses autres organisations.
Le planning familial, entre autres,
voilà,
aussi.
Voilà, et notamment le MFPF, le planning familial, qui fait suite au rassemblement qui avait déjà eu lieu le vendredi 27 août dernier, en solidarité, en soutien aux Afghans et aux Afghanes, et plus généralement aux réfugiés, mais en tout cas par rapport à la situation dramatique qui est en train de se jouer aujourd'hui en Afghanistan. De nouveau, c'est une bonne centaine de personnes qui, comme le 27 août dernier, qui s'est rassemblée ce samedi, place de la Comédie à Lyon, donc pour apporter un nouveau soutien et demander l'évacuation des personnes qui souhaitent quitter l'Afghanistan et qui, chaque jour, sont de plus en plus nombreuses quand on voit l'obscurantisme et la nuit s'abattre sur ce pays et sur les libertés individuelles et collectives. Malgré, on pourrait dire, la violence extrême du régime des talibans et l'idéologie religieuse et réactionnaire qu'il met en place, Malgré aussi l'attaque terroriste de l'aéroport de Kaboul, qu'on peut rappeler, qui a tué une centaine de personnes le 26 août dernier, et ben malgré tout ça, l'État français a considéré que l'évacuation de 2800 personnes était bien suffisante. Et depuis le 27 août, il a arrêté les rapatriements. Nous, on le voit comme une nouvelle et ultime manifestation d'irrespect et de négation des droits de tout être humain. Pour des personnes notamment qui ont servi la France et l'Union européenne, mais aussi pour les personnes qui risquent leur vie du fait de leur métier, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. On peut penser, quand on parle de leur métier, aux artistes, chanteurs, musiciens, acteurs, etc., qui pratiquent des choses qui ne sont pas acceptées par les talibans. On voit que depuis l'arrêt des rapatriements le 27 août dernier, que les témoignages, les appels à l'aide, ils affluent. Et quelque part, ils nous laissent démunis et apeurés pour les Afghans et les Afghanes. Et ils n'entraînent bien sûr aucune réaction de la part du gouvernement français. Pourtant, dans le même temps, le nouveau régime en place, le nouveau régime politique en place à Kaboul, lui, multiplie les exécutions, les enlèvements, les déclarations violentes, les menaces sur les femmes, les minorités sexuelles et de genre, sur les artistes, on l'a dit, sur les militants et les militantes, et puis sur les journalistes. Et face à ça, faisant preuve d'un immense courage et d'une détermination impressionnante, des femmes ont osé manifester à Kaboul. Pour protester contre le recul de leurs droits et leurs conditions qui est fait, et pour affirmer leur soif de liberté et dignité. Et ces femmes qui ont osé descendre dans les rues la semaine dernière, elles ont été violemment réprimées, comme il se doit, par ce pouvoir qui n'a pas accepté cet affront. Alors, nous, ce qu'on voulait rappeler samedi en se rassemblant en soutien aux Afghans et aux Afghanes, comme le 27 août dernier d'ailleurs, c'était de rappeler, comme ailleurs en Europe, qu'on réclame un accueil inconditionnel des personnes qui demandent l'asile en France et en Europe, que les personnes qui souhaitent fuir l'Afghanistan puissent le faire dans le pays de leur choix et dans des conditions d'accueil qui soient dignes et humaines, avec notamment un accès au logement, à la santé, à la formation. Que toutes les personnes afghanes sur le territoire français et européen soient immédiatement régularisées, quelle que soit leur situation administrative, que cessent immédiatement les reconduites à la frontière, que les ONG, les organisations non gouvernementales et les militants et militantes en Afghanistan soient soutenus, pas par de beaux discours, mais par des moyens concrets, d'une diplomatie qui soit au service des droits humains et non pas des intérêts économiques. Et puis enfin, plus globalement, nous on se bat pour une réforme radicale des conditions d'accueil et d'asile en France, car on sait que les frontières, elles tuent des hommes et des femmes, des enfants chaque jour. C'est pour ça qu'on réclame le droit d'asile pour les Afghans et les Afghanes, mais au-delà de ça, le droit d'asile pour toutes et tous, tout être humain qui veut librement se déplacer, à qui le monde lui appartient et qui estime que sa vie sera meilleure ou que son choix de vie sera ici plutôt que là-bas. Voilà, on voulait revenir sur ce rassemblement face à des au cours duquel notamment a été lu un certain nombre de témoignages.
Des prises de parole, oui.
Il y a eu des prises de parole des organisations qui soutenaient ce rassemblement et où il y a eu un certain nombre de témoignages qui ont été lus, des témoignages d'Afghans et d'Afghanes qui décrivent comment la nuit est en train de s'abattre sur leur pays et comment l'obscurantisme religieux est en train de faire de leur quotidien un enfer. Voilà, c'est ce retour sur ce rassemblement qu'on souhaitait commencer cette émission Idées Noires. Pour commencer aussi, on voulait revenir sur la polémique qui a eu lieu la semaine dernière et qui a agité pendant 48 heures à la fois les réseaux sociaux et la presse locale. Polémique à propos lancée par Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, président Les Républicains de la région Rhône-Alpes, avec le soutien de la presse comme Le Progrès, qui a étalé ses propos pendant 2-3 jours de suite à propos du Lyon Antifa Fest, le festival antifasciste de Lyon qui a lieu depuis maintenant un certain nombre d'années, traditionnellement au mois de décembre. Alors, suite en fait à la publication d'un teaser, c'est-à-dire d'une petite vidéo de présentation de la prochaine édition du festival Lyon Antifa Fest, qui doit normalement avoir lieu les 10 et 11, vendredi 10 et samedi 11 décembre prochain, Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, qui est, on le sait, un apôtre de la droite dure, a annoncé qu'il voulait retirer une subvention de 45 000 euros habituellement octroyée au CCO, au Centre culturel œcuménique de Villeurbanne, la salle de concert qui accueille d'ordinaire depuis sa création ce festival antifasciste. Alors ce teaser, cette vidéo incriminée, en fait elle reprenait des extraits vidéo de concerts des éditions précédentes des années passées du Lyon Antifa Fest, et parmi ces extraits, on pouvait voir quelques secondes d'un concert d'un groupe de rap qui reprenait en chœur avec le public un traditionnel slogan entendu maintes fois en manif qui met en cause les forces de l'ordre et qui dit tout le bien et tout l'amour qu'en pensent beaucoup de gens et bien souvent les manifestants du mouvement social. Alors bien sûr, l'extrême droite qui tente régulièrement d'attaquer d'ailleurs ce festival, virtuellement ou physiquement, elle s'est immédiatement mobilisée sur les réseaux sociaux après la diffusion de cette vidéo, ce qui a entraîné une multitude de réactions de la droite dure, de Laurent Wauquiez au syndicat de police. Et on le disait, ni une ni deux, le Progrès s'est saisi de ce pétard mouillé en servant de tribune au président de la région. Et histoire d'en faire quelque part, d'en faire une montagne, c'est là que le président de région a profité de cette polémique, montée de toutes pièces, pour l'instrumentaliser et annoncer le retrait d'une subvention régionale de 45 000 euros au CCO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette subvention, elle a strictement rien à voir avec l'Antifa Fest. On peut rappeler que c'est un festival autogéré, qui n'est pas subventionné, contrairement à des propos mensongers qui ont été actuellement diffusés. Et c'est un festival qui s'est toujours prononcé contre toutes les discriminations, qu'elles soient de classe, de genre, de race, contre les violences sexistes, fascistes et capitalistes, et contre les systèmes d'oppression et de répression. Et que cette polémique, elle avait pour fin de nuire à ce festival, bien évidemment, et tenter d'empêcher sa prochaine édition. Alors, cette subvention de 45 000 euros dont il est fait question, qui est attribuée au CCO et absolument pas pour organiser ce festival, elle correspond en fait à une subvention de fonctionnement du Centre culturel et économique de Villeurbanne, qui n'a donc rien à voir avec le festival antifasciste, qui lui ne bénéficie, on vous le disait, d'aucun financement public puisqu'il est autofinancé. Et d'autre part, c'est peut-être là aussi, et c'est sans doute le plus important, cette décision autoritaire est en fait une attaque à la liberté d'expression et à la création artistique. Et quelque part, Laurent Wauquiez, il enfonce le clou de sa dérive droitière et il embrase encore un peu plus les idées d'extrême droite qui sont justement combattues par ce festival. Pour l'instant, cette histoire, elle est en suspens. Le CCO ne sait pas qui est la salle donc qui accueille ce festival depuis ses débuts, ne peut être en aucune façon tenu pour responsable de la vidéo et du teaser qui a été diffusé, qui est une initiative de l'équipe organisatrice de l'Antifa Fest. Par contre, on peut au contraire s'interroger sur le dessin politique qui anime cette décision, c'est-à-dire que la volonté, c'est bien de tenter d'empêcher la tenue de ce festival. Et puis là aussi, il a rapporté pas mal de choses mensongères, puisque lorsqu'il est reproché par exemple au festival de troubler l'ordre public, on peut rappeler qu'il n'y a aucun incident qui a été à déplorer sur le festival au cours de ces 7 dernières éditions, que ça soit à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle. Et par contre, en revanche, le CCO, c'était la salle qui l'accueille, a subi en 2019 des menaces et une attaque avec tentative d'incendie afin déjà de la dissuader d'accueillir le festival. Bien sûr, on se doute bien d'où viennent ces menaces et ces tentatives d'incendie. Elles sont toutes signées et elles viennent de l'extrême droite. Et d'ailleurs, on peut s'interroger hein, sur comment aujourd'hui on tente de faire pression pour empêcher la tenue d'un festival qui repose sur une parfaite légalité au niveau de son organisation, alors que il n'y a pas la même fermeté qui est organisée lorsqu'on parle de locaux d'organisation qui sont pourtant dissoutes par le gouvernement. Je parle de Génération Identitaire qui ont encore pignon sur rue dans notre ville à Lyon dans le 5e arrondissement, qui sont des lieux qui appellent systématiquement à la haine et qui sont quelque part la résurgence d'organisations dissoutes et qui, pour continuer à fonctionner, viennent de fusionner dans une nouvelle association. La Traboule, le bar des identitaires et leur salle de sport où ils s'entraînent au combat de rue, à l'agression de rue, on pourrait dire... La Gaugé, et ils viennent de fusionner ça dans une nouvelle salle qu'ils appellent les Remparts pour pouvoir continuer à exercer. Et ben là, par contre, rien n'est dit, aucune fermeté, notre président de région, aucune inquiétude n'est mise en avant. Donc on voit bien qu'il y a encore une fois deux poids, deux mesures dans ce traitement-là. Qu'aujourd'hui, on tente de faire pression sur le CCO pour faire que ce festival il s'arrête. On ne sait pas ce qui va se passer, quelle va être la décision du CCO. Est-ce qu'ils vont être obligés de plier de peur de ne plus pouvoir fonctionner ou pas? Est-ce que ce festival va devoir trouver une nouvelle salle pour l'accueillir? Est-ce que ça va être la fin de l'Antifa Fest par cette sombre manœuvre? On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est en stand-by. On pense qu'on aura une réponse de la salle dans les semaines qui arrivent. On espère que le CCO garderont la tête froide et sauront choisir le camp de l'éthique et de l'honnêteté et du courage politique plutôt que celui de devoir baisser la tête devant les injonctions et les menaces de Laurent Wauquiez. En tout cas, nous, on ne peut que apporter tout notre soutien au festival Antifa Fest et au CCO dans cette situation qu'il l'aurait fait. On ne peut aussi que réaffirmer notre engagement antifasciste et nous dire que on ne peut pas laisser passer des attaques réactionnaires telles que celles-ci contre le mouvement social, contre l'expression artistique, et puis que la lutte contre l'extrême droite et ses idées nauséabondes, hein, qu'elles soient racistes, sexistes, homophobes, transphobes, etc., c'est l'affaire de toutes et de tous, et qu'on ne peut pas laisser menacer une salle qui accueille ce type d'événement et interdire un festival antifasciste qui a toute sa place dans notre métropole. Voilà ce qu'on voulait dire sur cette émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire. Et puis ben, on va faire une première pause musicale qui tombe à propos par rapport à tout ça, contre tous les fascistes, contre tous les réactionnaires, contre les identitaires et la droite dure et autres encore. On va retrouver les Feux Cavalera avec leur grenade incendiaire.
C'est parti. Comment ça se fait qu'il marche pas? Ça marche pas.
Comment ça se fait ça?
Ils veulent la guerre, je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Ouais, ouais, ouais. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. Je balance des dénonciations sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par l'ascension de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Elysée. Viens exploser sur ta tatine, c'est des QG de la droite. Va pas apprécier, il lâche sur le fric pour protéger le PDG de l'État français, l'ordre moral pour stigmatiser. Une fois de plus, sera français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires. Les combien sont vendus pour des billets bleus roses ouverts. Aujourd'hui, on la récupère, pas de la branlette comme le clash. Sur des rois négocentrisés, une arbalète aux flèches en flammes, traquant, brûlant des injustices d'un système répressif. À coup d'attaque liberticide, ils feront du rap un mode d'expression libertaire. On répondra pas sans temps, par du verre facile. À vos attaques militaires pour vendre votre mère. On veut plus d'attaques économiques, on veut plus de bombes médiatiques. Sinon, une guérilla sanglante éclatera sur vos vitres. On veut plus de votre marchandisation de la musique. Sinon, une guérilla sonore fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Comme une grenade incendiaire, comme une grenade incendiaire. Ouais. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre le feu au ministère. Comme une grenade incendiaire.
Les grenades incendiaires, c'était les feux lyonnais de Calavera sur ce 102.2 de Radio Canut. Comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, en direct. Et puis on peut en profiter pour rappeler que depuis cette rentrée, vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas écouter l'émission le mercredi en direct, vous pouvez retrouver sur la page de l'émission Idées Noires sur le site internet de Radio Canut. Toutes les émissions en réécoute, en général, dans les 24-48 heures qui suivent l'émission, elles sont en ligne. Voilà, si vous avez loupé l'émission, ou si vous voulez souhaiter la réécouter ou la faire partager, eh ben, il ne faut pas hésiter, vous pouvez aller sur le blog d'Idées Noires, sur la page de l'émission Idées Noires sur le site de Radio Canut. Voilà, et ben, il est temps de retrouver notre traditionnelle rubrique sur les luttes sociales et syndicales, n'est-ce pas, Daniel ?
Mais tout à fait, avec mes excuses, parce que évidemment, je m'ai trompé de curseur pour envoyer la musique, tout bêtement. Ben, y en a tellement aussi sur cette table de mixage là que on peut se tromper. Alors je demande votre pardon. Bon, enfin, voilà, on va commencer donc cette première page de lutte sociale, de salariés, etc. Donc, en partant sur la Marne, à Épernay, très exactement, puisque c'est la ville du Champ, la ville du Champagne, la ville de Mouette et Chandon, la ville de Bernard Arnault, du groupe LVMH, Louis Vuitton, qui se prend donc une grève dans les gencives. Ils étaient 200 salariés en lutte avec la CGT. Alors je dirais encore une fois Champagne, au siège social pour exiger la prime Macron et des négociations sur les excellents résultats du groupe et aussi de Mouette donc et Chandon. Les bourgeois s'enivrent et les travailleurs pressent l'éponge pour quelques gouttes. 95% de grévistes à la production, 90% de grévistes dans le vignoble de la Marne, de l'Aisne et de l'Aube. 250 manifestants chez Mouette, bah la prime représenterait, d'après de savants calculs, 0,002% du chiffre d'affaires de LVMH et 0,25% de Mouette et Chandon. Une misère. Et cette grève était donc le 1er septembre, et voire aussi, puisqu'elle a été renouvelée, donc le 6 septembre. à Guilherand-Grange, c'est dans l'Ardèche, et c'était le 9 septembre avec des travailleurs de l'aide à domicile en milieu rural, c'est-à-dire en plus court, ça fait ADMR, contre l'obligation de la vaccination pour le travail. Alors, date butoir, on se le rappelle, c'est aujourd'hui, hein, 15 septembre. Alors, après, quick, on coupe tout, le contrat en 1000 morceaux, façon puzzle. 10 personnes en bagarre au local de l'ADMR, qui sont des aides-soignantes, aides-soignants et auxiliaires de vie, contre, évidemment, ce chantage. Le 2 septembre, c'est une grève dans un McDo à Gourdan-Polignan, c'est en Haute-Garonne. Alors c'est étonnant, non, pas trop, parce que des grèves chez les McDo, il y en a en veux-tu, en voilà, ça foisonne. Alors pas tant que ça quand on apprend que c'est pour dénoncer le mépris de la direction. La lutte a démarré le 28 août, les conditions de travail, un nouveau gestionnaire qui joue les durs à cuire comme les frites de chez McDo, les temps, c'est le planning modifié au dernier moment, heures supplémentaires non payées, harcèlement moral, licenciement abusif, tout ça dénoncé par la CGT sur des actes donc qui ont lieu sur de jeunes précaires. Alors ils les recrutent où, leurs franchisés, chez McDo, hein, chez les identitaires par exemple. Revendication, c'est 13 euros de l'heure, mise en place aussi d'un comité social économique, un CSE. Le paiement majoré des heures de nuit a été mis aussi en place, une caisse de soutien. Soutien également de la part de la CGT de Chronodrive et de la CGT du 31 sur le piquet, et la grève totale donc continuait. Le 7 septembre, c'est 5 jours de grève sur l'aéroport Félix-Éboué, géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Les personnels au sol ont refusé la vaccination. Et pour cela, la grève a été l'élément pour décider la direction, selon l'UTG, donc l'Union des travailleurs de Guyane, et le CDTG UNSA. L'intersyndicale a finalement signé le protocole d'accord de fin de conflit, certifiant la non-obligation vaccinale pour les personnes travaillant sur la plateforme, et également donc le pass sanitaire. À Barentin, c'est en Seine-Maritime, avec un mouvement spontané le 9 septembre de la part des travailleurs et travailleuses de Enedis, énergie et distribution. 70% de 80 personnes sur le site. La CGT Énergie Rouen avoue n'avoir rien enclenché, mais soutient le mouvement, ce moment de colère, sur cette base opérationnelle renforcée par un piquet de grève et barrage. Pour un meilleur service au public, les grévistes exigent de meilleures conditions d'intervention, des moyens matériels et un effectif conséquent, et également moins d'heures supplémentaires. La direction a semblé tendre une oreille, alors que 4 autres bases dans l'Orne entraient dans la lutte, ras-le-bol d'une désorganisation du travail. Alors Le Havre, on va rester en Seine-Maritime, on a repris le collier chez l'entreprise Saint-Omer. C'est pas Saint-Mer, hein. Attention, c'est Saint-Omer, S-Y-N-T-H-O-M-E-R, je précise, c'est à Sandouville. Le collier de la grève, donc c'était le 3, ils ont repris donc le collier, ce fameux collier de la grève, le 3 septembre, avec piquet de grève. Le premier jet de lutte avait été envoyé il y a 7 mois, selon la CGT. Ce qui met en colère ici, c'est un PSE pour 15 suppressions d'emplois, pour 200 postes à l'usine de production de résine. Des promesses non tenues n'arrangent pas évidemment les affaires des ouvriers, ouvrières touchées. Par contre, le plan de transformation, lui, bat son plein. Contrat de travail modifié, il y en a 80. 117 sont aussi sur le fil donc du rasoir. Polyvalence sur des postes spécifiques également mis en place. Et puis les indemnités, pas au niveau donc de considération. Alors avec un exemple, 37 000 euros pour 25 ans d'expérience, ça veut tout dire. à Melun dans la Seine-et-Marne, eh ben, c'était le 6 septembre avec une grève chez Transdev. Eh bien oui, ça se poursuit avec un rien, puisque 100% de participation, 66 pour la direction, grève illimitée. Alors selon le syndicat UST Interpro de l'Union syndicale solidaire des conducteurs de bus de Melun-Val-de-Seine, ben, il dénonçait une perte de revenus, des rotations supprimées donc du coup, puis démarrage d'une deuxième semaine de grève le 13 avec piquet à Vaulpénil. Le service au public Mélibus doit passer au privé, probablement par une réorganisation, encore on l'entend souvent ce mot, et donc conditions de travail abîmées, heures supplémentaires à la trappe par modification de planning. Alors même événement à Saint-Gratien dans le 95, il semblerait que Transdev, parce que c'est encore cette société, fait joujou avec la boîte de, sa boîte de jeux préférée, c'est-à-dire la réorganisation jeux préférés qui a en ce moment la préférence aujourd'hui des entreprises de transport urbain. Une cinquantaine de conducteurs en piquet de grève le 6 septembre, blocage de l'accès au dépôt pour dénoncer les nouvelles conditions de planning encore et un temps de pause réduit qui passerait de 40 minutes à 5 minutes. Voilà, il y a de quoi se foutre en pétard. J'ai encore une petite page, allez, à 7 dans l'Hérault, donc chez Aglopole, c'est Aglopole Mobilité. Grève pour les acquis sociaux cette fois. Ce 6 septembre, les conducteurs de bus font la mauvaise tête avec les syndicats FO et la CGT. Quand même, et pour les acquis sociaux en danger. J'en ai fait une brève la semaine dernière en citant Keolis qui gère les transports en commun. En fait, l'employeur ici est Aglopole Réseau Bus de 7, appelé Totem avant Keolis, avec le groupe Vectalia et sa filiale CFT, Corporation Française de Transport. Ça, c'était le petit détail qui me permet d'affirmer. Enfin, tout ça, c'est grève, quoi. Il faut s'y retrouver dans tout ça. À Béthune, où va se nicher donc la grève, à Béthune, en fait, c'était le 6 septembre chez la Croix-Rouge. C'est là que se niche la grève aujourd'hui. La Croix-Rouge, donc une journée pour les salariés, pour une revalorisation des salaires au centre de formation de l'IFSI. C'est l'aide soignante infirmier, enfin, c'est des aides soignants et soignantes infirmiers et infirmières. C'est un institut de formation. Alors avec une grosse inquiétude pour les étudiants et les étudiantes, puisque les formateurs sont en grève. Collectivement unis, les formateurs et formatrices veulent être considérés comme leurs collègues du public, à savoir obtenir une prime du moins 183 euros de mieux par mois. Il y a eu une action équivalente à Laval, en Mayenne. Voilà pour cette première page d'actualité sociale.
Oui, alors dans l'actualité sociale aussi, inévitablement, on est obligé de réévoquer comme un peu chaque semaine les conséquences sociales liées à la crise sanitaire, liées à la pandémie de coronavirus. On est confronté à une quatrième vague, visiblement, peut-être moins forte, moins désastreuse que les précédentes, mais réelle pour autant. Et que face à cette quatrième vague, on en a déjà parlé, la réponse du gouvernement, ça a été de dégainer son fameux pass sanitaire, qui est une réponse autoritaire, qui n'est pas la bonne solution, hein, qui ne fait qu'exacerber les méfiances et les réticences. Et samedi dernier, on a encore vu des mobilisations dans de nombreuses villes, comme à Lyon, de gens qui s'y opposent, des mobilisations qui traînent dans leur sillage de plus en plus de gens avec qui on n'a strictement rien à voir, et même qui sont nos ennemis politiques. puisque cette mesure, en effet, du pass sanitaire, elle a provoqué des manifestations de protestation pour le moins hétéroclites, hein, avec, au-delà du non au pass sanitaire, des discours qui sont parfois aux antipodes les uns des autres, qui vont des pro-vaccinations aux anti-vax, et puis, sans même parler des ordures conspirationnistes et antisémites qu'on a vu fleurir ici et là. Les camarades ont pas mal parlé la semaine dernière, on n'y reviendra pas trop de la place du mouvement conspirationniste dans cette mobilisation anti-pass sanitaire. En tout cas, nous, ce sur quoi on veut revenir maintenant, c'est sur le fait que l'extrême droite, qui parade de plus en plus dans ses manifestations et qui se permet même de faire des cortèges clairement constitués, s'est trouvé un nouveau cheval de bataille, qui est celui de la liberté vaccinale. Ce qui nous fait quand même doucement rigoler de les entendre parler de liberté, alors qu'on sait que l'extrême droite aspire et revendique un État autoritaire. D'un coup, ils se posent en défenseur des libertés individuelles, voire des libertés publiques. On veut dénoncer cette imposture, hein, qui est une confusion très dommageable autour du concept de liberté et qu'on partage absolument pas. Parce que ériger la liberté individuelle en valeur absolue au mépris de la société, pour nous, c'est une conception qui est une conception égoïste et libérale. Et ça n'a rien à voir avec la conception libertaire qui est la nôtre, hein, et qui est parce qu'elle est communiste, énonce au contraire très clairement qu'en société, il peut y avoir des nécessités sociales qui surclassent les libertés individuelles. Et en l'occurrence, dans le cas dont on parle, dans le cas de cette pandémie de Covid virus, c'est l'endiguement de cette pandémie dont les caractères exceptionnels peut brutalement saturer le système de santé et qui, rappelons-le quand même, a déjà fait 114 000 morts rien qu'en France. C'est pour ça que la liberté vaccinale, ça ne peut pas se poser comme ça en termes de liberté individuelle. Et au contraire, nous, on prône nettement une vaccination générale avec des mesures qui soient incitatives et non pas autoritaires. Et c'est ce dont devrait s'emparer le mouvement social, qui devrait faire entendre sa propre voix autour de ses revendications contre justement ces postures libérales et égoïstes qui sont développées par les fachos et par beaucoup d'autres, ou la posture même faussement solidaire qui est développée par Macron et son gouvernement. Parce qu'on l'a dit, hein, l'autoritarisme gouvernemental, lui, il échouera à enrayer la pandémie. Et en imposant le pass sanitaire, en fait, il contraint au lieu de convaincre. Et c'est une politique qu'on peut juger à courte vue, parce que pour faire progresser la vaccination dans les classes populaires, il faut au contraire une incitation qui soit fondée sur des mesures sociales et non pas sur des mesures discriminatoires. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Hein, il faut aller dans le sens du renforcement des mesures en plus discriminatoires, on l'a déjà dit, on l'a déjà développé, qui donnent des armes au patronat, hein, pour faire du chantage sur leurs salariés. On sait que c'est aujourd'hui la date limite pour un grand nombre de travailleurs et travailleuses de la santé pour avoir dû se faire vacciner et pour pouvoir rester en poste. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une vague de licenciements, de mise à pied, de mise à l'écart, de mise au placard? Ça risque de se décliner de différents de façon. En tout cas, ça, c'est donner des armes au patronat pour lui permettre de réprimer celles et ceux peut-être un peu trop contestataires, celles et ceux peut-être un peu trop syndicalistes, et autour de cette opposition au pass sanitaire, de pouvoir faire le ménage dans le service public ou dans les entreprises. C'est ce qui risque de se passer. C'est pour ça qu'on ne peut pas soutenir cette mesure-là. Par contre, on est pour le renforcement d'une campagne vaccinale avec des moyens humains et matériels, avec des diffusions d'informations qui soient claires sur ce qui est ce geste médical. Et puis on est pour une incitation concrète à se faire vacciner, par exemple au lieu d'être dans la répression et dans la coercition, peut-être qu'on peut inciter en donnant un jour de congé pour chaque dose aux salariés, y compris pour la vaccination de leur enfant s'ils le souhaitent. Ça peut aussi passer par une incitation monétaire équivalente, par exemple pour les privés d'emploi, les sans logis, les sans papiers, etc. Ça pourrait être des mesures qui favorisent cette campagne vaccinale, qui serait des mesures mesures simples, avec un coût minime en comparaison de ce qu'a coûté le chômage partiel, par exemple. Et puis au-delà de ça, on rappellera jamais assez qu'on peut que nous défendre, qu'être pour l'abrogation des brevets sur les vaccins anti-Covid, hein, qui sont le fruit d'une recherche qui a largement été financée par l'argent public afin d'étendre la production dans le monde entier, parce que ça, c'est extrêmement important. On sait très bien que si la campagne de vaccination traîne en longueur, le virus risque de muter jusqu'à un variant qui deviendrait résistant au vaccin, et que c'est pour ça qu'il y a urgence à cette campagne de vaccination, mais il y a urgence à ce que cette campagne de vaccination, elle concerne le monde entier, parce qu'une Europe immunisée n'empêcherait pas l'éclosion dans des pays moins favorisés de variants qui provoqueraient de nouvelles vagues dans les pays riches, et davantage qu'une question humanitaire, la vaccination générale et internationale, on insiste bien là-dessus, et internationale, elle relève d'une sécurité collective. Et aujourd'hui, elle est entravée par les brevets, par la loi du marché, par les égoïsmes étatiques et par les rivalités géopolitiques. C'est pour ça que nous, on revendique l'abrogation des brevets sur les vaccins anti-Covid, qu'on revendique aussi la socialisation de l'industrie pharmaceutique, qui est un secteur vital d'utilité publique pour la société et l'humanité. Et il n'est pas tolérable. On pense que ce domaine stratégique obéisse à des logiques qui soient de recherche, de profit rapide, pour reprendre un slogan qui est valable sur beaucoup de choses, nos vies valent plus que leurs profits. Et là, c'est particulièrement vrai. Tant qu'il subsistera un intérêt autre que celui du plus grand nombre, c'est quelque part normal que la défiance de la population apparaisse et quelque part soit légitime, parce que derrière, on peut se demander en effet quelle est la véritable motivation de ces entreprises pharmaceutiques privées, celle du bénéfice ou celle du profit ou celle du bien public. Et c'est pour ça aussi que nous, on se bat pour un service public de santé unifié, qui soit déployé sur l'ensemble des territoires, qui soit renforcé par la socialisation des cliniques privées et qui doit être financé à la hauteur des enjeux, avec une embauche massive et urgente de personnel, et non pas, comme aujourd'hui, on le fait miroiter, des menaces de mise à pied, de mise au placard, de licenciement ou de perte de boulot pour des salariés de la santé qui refusent et qui s'opposent à la mise en place de ce passe sanitaire. Voilà, affaire à suivre. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent dans le secteur de la santé. Et puis, on ne peut que apporter nos soutiens aux salariés de l'hôpital Édouard Herriot qui se sont mobilisés contre le passe sanitaire en ce qui les concerne, mais aussi qui est imposé aux usagers du service public de santé et qui ne peuvent plus être accueillis sans passe sanitaire pour se faire soigner ou pour accompagner par exemple leur enfant malade, tout comme on peut soutenir les bibliothécaires de Grenoble qui ont aussi engagé une grève et une mobilisation sociale pour dénoncer le fait que ceux qui n'avaient pas leur passe sanitaire étaient exclus de la culture, de l'information, du savoir, et que c'était bien évidemment encore une fois les plus pauvres, les plus précaires qui étaient les premiers frappés, que quand déjà on n'a pas d'argent pour s'acheter les journaux, les livres ou pouvoir surfer sur internet parce qu'on n'a pas de connexion, si en plus les portes des bibliothèques municipales sont fermées parce qu'on n'a pas de passe sanitaire, on se trouve dans une précarité culturelle et intellectuelle qui double sa précarité déjà sociale et économique. Voilà ce qu'on voulait dire aussi sur la situation politique et sociale en lien avec la fameuse crise sanitaire. Triste monde que nous vivons actuellement, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, au contraire, faut relever la tête, lever le poing, être solidaire, mener des luttes ensemble pour espérer un autre futur. En tout cas, triste monde que nous chantait déjà Udger Royo il y a longtemps dans cette très belle chanson écrite par Victor Simal, Une énorme boule rouge.
Voilà.
Si de chaque goutte de sang versée par un enfant, si de chaque goutte de sang versée par un enfant jaillissait un coquelicot jaillissait un coquelicot. La terre ne serait plus bientôt. La terre ne serait plus bientôt. Une énorme boule rouge. Une énorme boule rouge. Une énorme boule rouge. Rouge, rouge. Rouge, rouge. Rouge comme la honte. Rouge comme la honte. Qui devrait empourprer nos visages. Qui devrait empourprer nos visages. Si nous avions le courage. Si nous avions le courage. À nous regarder de nous voir. À nous regarder de nous voir. Quand nous passons devant un miroir. Quand nous passons devant un miroir, si nous avions le courage de nous voir, et dès cada gota de sang passada per l'infant, brulleix una rosella. La terra pronta esdevindria una enorme bola rosa. Una enorme bola rosa. Una enorme bola rosa.
Une énorme boule rouge de notre camarade Serge Giroyot sur ce 102.2 de Radio Canu, toujours et encore jusqu'à 21h à l'écoute d'Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire, comme tous les mercredis de 20h à 21h. Et ben, il est temps de passer à notre deuxième page des luttes sociales et syndicales.
Oui, merci. Donc, pour cette deuxième page, je vais continuer sur le mois de septembre. Après, je reverrai sur quelques luttes qui se sont passées juste avant les vacances. Hein, c'est pas si tard que ça. Donc, c'était le 7 septembre avec une grève à l'atelier de production de panneaux de meubles, des meubles Gautier de Chantonnay. C'est en Vendée. Grève poursuivie le 10 septembre, selon EFO et aussi la douzaine de salariés pour des augmentations de leurs dus, salaires et primes, reconnaissance de la pénibilité mal identifiée par leur direction. Il y a quand même 850 personnes qui sont employées ici en équipe, par quatre équipes, des heures décalées, les week-ends travaillés. Cela fait 3 ans que la prime est gelée. La direction ne comprend pas, malgré un premier pas donc vers des arrangements, on va dire. À Cateau-Cambrésis, maintenant c'est dans le Nord, c'était au 7 septembre avec l'entreprise Zaza, matériel de cuisson, piquet de grève sur le site de production avec la CGT, la CGC, la CFDT qui étaient au fourneau et 80% de grévistes et aussi ensuite le syndicat FO. Eh bien, ici, ce sont les négociations annuelles obligatoires qui font défaut. En 2018, la direction descendait carrément en flammes 33 postes de travail par un PSE. Les licenciés avaient obtenu 10 000 euros en prime supralégale en novembre 2018, après une lutte bien suivie. 219 salariés étaient dans ces murs à l'époque, donc il y a le feu au château pour cette entreprise leader dans les toiles alvéolées, siliconées pour la cuisson. La direction avance des raisons économiques. 20 000 euros étaient revendiqués pour le PSE une première fois. Une proposition donc à 5 000 euros pour la direction. C'est des miettes. Pour revenir donc à quelques luttes d'avant vacances, et après je laisserai le micro une nouvelle fois à mon camarade, c'est chez Thalès, encore avec la centaine de salariés en grève et postés devant l'entrée pour exiger l'équité des salaires, donc selon la CGT, dans un mouvement national sur les 6 établissements, les 6 sites, notamment à Étrel, les salaires qui sont très bas, et là est exigée une harmonisation car sont notées des différences atteignant 600 euros. Alors je pense que c'est 600 euros à l'année, peut-être mensuel, à le savoir. Pour les 550 personnes qui bossent pour le Rafale, il y a pas photo, la direction doit envoyer les augmentations car 2020 a été bénéfique. Solidaire est venu épauler aussi la CGT. Au Creusot, maintenant en Saône-et-Loire, c'est une centaine de grévistes en soutien à la filiale d'ArcelorMittal, Industil, menacée de fermeture, sans repreneur éventuel. 3 000 postes disparaîtront car Framatome est impacté ou serait impacté par cette disparition. Et pour terminer, donc à Écouches, les Vallées, c'est dans l'Orne, chez Verre-Essence. Nous sommes là dans un atelier, dans une usine de verrerie, leader mondial du flacon de verre. Alors c'était la grève, on n'y va pas avec de la cuillère, des salariés à la hauteur de leur souffrance, au mois de juin, et même le 3 en lutte, donc pour une augmentation générale de 3%, salaire, prime, etc. 50 salariés ont manifesté devant l'usine, tous les ateliers mobilisés, équipe du matin, de l'après-midi, de la nuit aussi, 100% de grévistes selon la CFDT, des débrayages de 2 heures pour donc des NAO, les négociations annuelles obligatoires satisfaisantes, des conditions de travail tout autant, 0,5% proposé, puis 0,8% après un gel des salaires et primes en 2020. À Périgny, c'est en Charente-Maritime, c'est la PAV, 25 salariés, le 7 juin, qui étaient en grève, qui protestent contre la remise en question de leurs acquis sociaux, selon la CGT. Un comble pour eux qui apportent aux entreprises leurs compétences professionnelles, aux risques techniques, humains et numériques. Formation sur le code du travail. La PAV, donc c'est l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques. qui réalise quand même un chiffre d'affaires à 881 millions d'euros. C'est un chiffre de 2019. 12 400 collaborateurs et collaboratrices, 130 agences. Ce qui chagrine donc la direction, c'est qu'est entrepris des négociations avec un nouvel actionnaire. Alors ce qui chagrine plutôt, c'est que la direction a entrepris des négociations avec un nouvel actionnaire, PAI Partner, qui est un fonds d'investissement, Paribas Affaires Industrielles. Ça spécialité, c'est prendre le contrôle de société. C'est terminé pour moi. Je te laisse donc le micro.
Oui, pour continuer sur ces problématiques sociales, dire quelques mots de la question des retraites et de l'assurance chômage qui vont être remis sur la table et donc sur lequel le gouvernement cherche désespérément des fenêtres de tir pour faire ces réformes. En tout cas, c'est plutôt sa casse sociale sur ces sujets-là, puisque maintes fois annoncé puis déprogrammé en raison de la crise de Covid pour éviter une crise sociale ingérable, les nouvelles réformes de l'assurance chômage et du système de retraite pourraient être remises sur le métier dès cet automne. L'agenda, il reste quand même incertain. Par contre, on voit bien que le gouvernement, le président, ils insistent sur leur volonté de réformer les retraites et l'assurance chômage. C'est une façon de nous faire payer la facture du fameux « quoi qu'il en coûte ». C'est déjà ce qui avait été annoncé en septembre 2020 par le ministère de l'économie, et puis ça a été confirmé cet été lors de l'allocution télévisée du président de la République le 12 juillet dernier. Alors, la première chose qui semble à peu près sûre, c'est que la réforme de l'assurance chômage, elle sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre, c'est-à-dire d'ici peu. C'est ce qu'il a annoncé, ce que le président a annoncé cet été. C'est-à-dire qu'à partir du 1er octobre, va rentrer en vigueur un nouveau mode de calcul des indemnités de chômage. Et ça risque d'être catastrophique, puisque c'est près d'un million de privés d'emploi, d'après une étude de l'UNEDIC, qui vont voir leur allocation mensuelle être réduite et qui vont donc se retrouver un peu plus plongés dans la précarité et dans la pauvreté. Mais ça, le gouvernement veut pas l'entendre et il semble déterminé à mettre en place dès le 1er octobre le nouveau calcul de l'assurance chômage. L'autre sujet, bien sûr, c'est celui des retraites, hein, où le dossier a été réouvert. Ce dossier sur les retraites qui avait été suspendu là aussi, d'une part par l'important mouvement social qui avait duré plusieurs mois, et puis devant ensuite la crise sanitaire. Mais là encore, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de réouvrir le dossier et a laissé cours à toutes les spéculations possibles sur le recul de l'âge de départ. On ne sait pas si son idée de retraite à points qui était précédente sera remis en avant. En tout cas, là, ce qui martèle, c'est la nécessité de travailler plus longtemps. Hein, c'est une façon de fixer les termes du débat. Alors, est-ce qu'il va réouvrir ça avant les élections présidentielles? Il y a peut-être peu de chance, mais ça risque en tout cas d'être, si jamais Macron est réélu, un des grands chantiers, un des premiers chantiers de son prochain mandat. Bah, peut-être qu'il faudra reprendre le chemin de la rue là aussi pour...
Bon, mais ça sera certainement celui de son remplaçant aussi, ou de sa remplaçante éventuelle.
Tout à fait, quel que soit le clown au pouvoir, on risque de toute façon d'être soumis à la même casse sociale et devoir se serrer les coudes et relever les manches pour reprendre le chemin de la mobilisation sociale pour défendre nos droits à la retraite. Ça c'est évident, mais voilà, on voulait quand même en parler sur ces chantiers sociaux qui risquent d'être remis sur la table et qu'on devoir de nouveau évoquer. Voilà, et puis pour terminer cette émission, là aussi, quelque chose de peu réjouissant, une petite information internationale qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, dans l'État du Texas, où vous avez certainement entendu parler de la victoire des conservateurs dans leur guerre contre les femmes, puisque le Texas vient de se doter d'une loi qui interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse, quelles que soient les circonstances. Et en fait, il s'agit de la loi la plus restrictive sur l'avortement depuis sa légalisation. Il faut bien se rendre compte que 6 semaines de grossesse, c'est la moitié du délai qui est accordé par la France, c'est le quart de celui qui est accordé par l'Espagne, et à 6 semaines, ça laisse pas assez de temps pour que la plupart des femmes puissent se rendre compte de leur grossesse. Cette loi, en plus, elle fait aucune exception pour les victimes de viol et d'inceste, par exemple, ni même dans les situations où l'embryon n'est pas viable, par exemple. Alors cette loi, elle a été avalisée par un arrêt de la Cour suprême et elle donne aux citoyens la responsabilité de porter plainte contre les femmes enceintes et les organisations qui les aident à avorter, ce qui est quand même dramatique, parce qu'il s'agit d'instaurer en fait un droit de délation à l'encontre des femmes et de celles et de ceux qui fourniraient aide, soutien et même de simples conseils. D'ailleurs, un site internet visant à recueillir ces délations a même été ouvert brièvement. Et l'État texan, quelque part, il encourage ainsi la violence à l'égard de celles et ceux qui pratiquent et bénéficient de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, ce qui est quand même assez hallucinant. De même, cette situation, elle ouvre la voie à ce que les conservateurs puissent entamer une guerre judiciaire qui vise à abolir dans les faits le droit à l'avortement dans ce pays, puisque des projets similaires sont en préparation en Floride et dans d'autres États des États-Unis. Et comme d'habitude, bah, cette loi, on le sait, elle va affecter encore plus durement les plus pauvres et précaires parmi les Texans. Et en plus du risque de subir des violences, on pourrait dire suite à une dénonciation, bah, de nombreuses femmes vont être contraintes de se rendre dans un état frontalier, ce qui représentera un coût et des difficultés matérielles extrêmes. Hein, le seul surcoût calculé pour franchir la frontière d'un état à un autre correspond en moyenne à une journée complète de travail au salaire minimum. Et beaucoup de femmes ne pourront pas se le permettre. Donc voilà, on voulait parler de cette dramatique situation qui a lieu au Texas, de ce recul pour le droit des femmes. Et on voulait rappeler que le droit à disposer de son corps, à choisir librement de sa grossesse, est une liberté fondamentale. Et on rappellera que l'interdiction de l'avortement ne fait pas disparaître les avortements, ça fait simplement disparaître la possibilité de faire une IVG en toute sécurité. Et liberté à corps et à cri, droit à l'IVG libre et gratuit, on se battra encore et toujours pour le droit des femmes. Voilà, c'est sur ces paroles qu'on termine cette émission Idées Noires.
Et on va laisser
l'Union communiste libertaire.
On va laisser la place à l'émission suivante que tu connais bien.
Et oui, laquelle je vous retrouve dans la bande son de nos révoltes juste après notre générique.
Et puis juste rappel pour le 24 donc de ce mois-ci, le 24 septembre pour le pot de la plume noire, donc 8 rue Diderot. On espère vous y voir nombreuses et nombreuses.